Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour, bonjour et bonne rentrée. Bah écoutez, je suis ravie d'être de nouveau à l'antenne, de nouveau pour vous parler de conversations urbaines et architecturales. Et j'inaugure cette saison avec Daniel Vanisch. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Alors Daniel, c'est le chairman, on va rester en anglais, de DVVD, polytechnicien, donc ingénieur, architecte DPLG, avec une agence un peu atypique, puisque c'est une agence qui est ingénieur architecte. Ça se fait pas souvent ici en France, peut-être un petit peu plus ces dernières années, mais vous avez été quand même un peu, t'as été précurseur, hein. Mais comment on fait aujourd'hui, puisqu'il y a quand même un vrai questionnement sur le fait de garder des bâtiments, de se poser la question du bilan carbone d'une démolition si on démolit. La réhabilitation est au cœur quand même des nouvelles préoccupations, surtout la réhabilitation lourde, c'est une vraie question, c'est une question aussi d'économie. Alors, c'est quoi la quadrature? Comment fait-on pour, d'un côté, il y a les freins des maîtres d'ouvrage, hein, pour des raisons économiques. Tu me donnes quelques exemples, tu m'expliques un petit peu, justement, l'ADN de l'agence.
Ah, bon, alors, l'agence, on est une cinquantaine de personnes, on est six associés à travailler à l'architecture, à l'ingénierie, au design à l'agence. Et effectivement, on doit faire aujourd'hui plus de réhab. Et quand je dis plus, ça doit être plutôt deux tiers de réhab et un tiers de neuf à l'agence. Et après, sur tout type de projet, des salles de spectacle, au stade, aux hôtels, aux lycées, aux logements, aux bureaux, enfin, très, très variés de tout type de projet. Les freins
c'est principalement Paris intramuros, c'est aussi en province, parce que Paris, c'est quand même, c'est pas un problème de réhabilité, voire c'est conseillé fortement.
Alors effectivement, Paris et certaines grandes villes françaises sont d'une certaine manière un cas particulier sur la réhabilitation. Alors pour répondre à la question, on doit travailler autant à Paris qu'en banlieue et province. Et effectivement, d'une certaine manière, c'est plus facile pour nous, architectes, de discuter et d'échanger avec les maîtres d'ouvrage sur la réhabilitation à Paris ou dans certaines grandes villes, comme Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et d'autres, bien sûr. Mais en tout cas, c'est plus facile parce qu'il y a en fait des organismes municipaux ou des intentions municipales beaucoup plus fortes à réhabiliter dans ces grandes villes.
C'est pas simplement patrimonial.
Pas que patrimonial, évidemment. En fait, la question patrimoniale se pose même pas. Un très beau bâtiment.
On ne réfléchit pas.
Et tout le monde est convaincu. Mais notamment à Paris, la question de conserver des parkings et de les transformer en autre chose, ce qui est un sujet assez à la mode, se fait sur des bâtiments pas du tout patrimoniaux et plutôt. Pas beau aujourd'hui. Et le but, justement, c'est d'arriver
pas
à
beau,
à autre chose.
Mais avec beaucoup de béton.
Mais
donc
avec beaucoup de béton. Les freins, donc, on les connaît. Y a ce frein de qu'est-ce qu'on a à la fin. Et on sait tous, si un jour on a voulu acheter un appartement, qu'un appartement neuf coûte plus cher qu'un appartement ancien, sauf quelques exceptions patrimoniales, évidemment. Donc les maîtres d'ouvrage, avant de leur dire c'est mieux de garder l'ancien que le neuf, on a un peu de mal. Après, il y a sans doute le plus gros frein, c'est celui de l'aléa. Quel est l'aléa de réhabiliter? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans la structure, dans l'amiante, dans le plomb, dans le fait que le bâtiment ne sera pas capable d'être fonctionnel pour son usage futur? Ça fait... Il faut convaincre les maîtres d'ouvrage sur qu'on va arriver à faire.
Oui, mais personne n'a une boule qui permet de voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va découvrir en amiante, en plomb, etc. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le prétexte de l'aléa est un prétexte ou une réalité? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'économie fait sens et qu'on décide quand même d'y aller?
D'y aller vers réhabiliter ou démolir?
Non, justement, maintenant.
Non, mais ça fait partie de notre travail d'architecte, de jouer sur un très bon diagnostic du bâtiment pour minimiser les aléas et pour expliquer et convaincre nos maîtres d'ouvrage qu'il y a peu d'aléas sur ce projet. Et puis le dernier volet, le troisième peut-être volet sur les freins sur lesquels il faut jouer avec les maîtres d'ouvrage, c'est quelle fonctionnalité. On se dit toujours qu'a priori, un bâtiment neuf, on va savoir mettre exactement la bonne fonction au bon endroit, avec la bonne hauteur sous plafond, alors qu'en réhabilitation, parfois il va manquer de hauteur, parfois la pièce va être trop petite, etc. Je simplifie évidemment, mais on voit tous la difficulté du jeu et de l'exercice. Donc le dernier volet, c'est sans doute la fonctionnalité, arriver à convaincre et à montrer qu'on arrivera à la bonne fonctionnalité en réhabilitant et pas tout simplement en démolissant, reconstruisant.
Donc, alors, il y a un point aussi qui, pour l'instant, laisse certains maîtres d'ouvrage dans une situation de questionnement. C'est le plan, on va dire, des diagnostics amiante et plomb, où on a quand même l'impression que, surtout dans l'amiante, alors peut-être que le plomb, c'est devenu un peu la même chose, on tire un fil et on ne sait pas où ça s'arrête. Hein. Parce que ça compte quand même en millions d'euros. On a quand même l'impression qu'on se fait un peu balader parfois, non ?
On peut avoir l'impression de se faire balader.
C'est juste une impression, c'est bon.
Il est vrai qu'on a beau faire tous les diags amiante plomb que l'on veut, on peut se retrouver dans des difficultés ou des choses cachées derrière la structure. Mais quand même, sans considérer que c'est toujours... on peut tout résoudre, je pense que de bons diags doivent permettre d'arriver à circonscrire le risque et à quasiment forfaitiser ce risque-là.
D'accord.
Oui. Mais ça veut dire qu'il faut y aller. Là, on travaille sur un projet sur les Champs-Élysées. Et ben, en fait, les diags se font pas seulement avec des gens dans le bâtiment et on va démarrer les travaux. C'est qu'on arrête de faire vivre le bâtiment, on cure le bâtiment, on diagnostique à ce moment-là pour être sûr de ne rien oublier.
Ça veut dire qu'on met déjà un billet sur la table pour curer.
Bien sûr, évidemment.
D'accord. Et donc, à partir du moment où, de toute façon, on est obligé de curer.
Oui.
Puisque de toute façon, même si on veut démolir, hein, la loi nous oblige à curer.
De toute façon.
Bon, donc de toute façon, c'est pas de l'argent perdu.
Normalement,
mais
c'est
pas
l'argent
perdu. Mais donc, ça permet de voir.
Oui. Et
c'est comme au poker.
Oui, et... Mais tu parles d'amiante et plomb, mais on a les mêmes sujets sur la structure. Il s'agit surtout pas, en cours de chantier, de se dire « Oh mince, ben, la structure n'est pas pérenne, il faut changer ou autre. »
Il faut faire des reprises en sous-œuvre.
Donc on a ce même travail de diagnostic, d'analyse, d'estimation et d'encadrement du risque pour le maître d'ouvrage. Évidemment.
Alors, le maître d'ouvrage, il a l'impression quand même, enfin, où ça arrive souvent, que la réhab coûte plus cher. Hein, mais est-ce que c'est pas parce que le bilan carbone de la démolition, le foisonnement du béton bien démoli, comme on parle de l'INSEE à Malakoff, quelque chose comme ça, pour l'instant, ne fait pas sens et pour l'instant, n'a pas de coût réel impacté sur justement le neuf versus la réhab. Est-ce que c'est pas quelque chose qui doit rentrer en ligne de compte justement pour faire peser un peu la balance?
Alors, ça me rappelle la discussion d'il y a 20 ans ou je ne sais quand.
Désolée,
par là.
Je suis un peu...
Non, mais ça me rappelle la discussion qu'on avait avant sur oh mince, il faut faire environnemental, monsieur, madame l'architecte, trouvez-moi le moyen que j'arrive à le rentabiliser sur 20 ans. Et est-ce que vos panneaux photovoltaïques, je vais arriver à les rentabiliser, que ça coûte moins cher à la fin? En fait, la question ne doit pas se poser en ces termes-là.
Bien sûr.
Si on doit faire environnemental pour la planète, on doit minimiser le bilan carbone pour la planète de la même manière. Donc, si l'équilibre...
Non, mais pour l'instant, ce n'est pas réglementaire. Pour l'instant,
oui,
et on sait très bien qu'aujourd'hui, voilà, il faut mettre un petit peu de règles pour que ce soit suivi, voire d'une punition, voire une amende.
Mais alors, c'est
j'exagère
quand même...
un peu en disant ça. Mais...
Non, mais effectivement, le bilan carbone de la démolition n'intervient pas encore dans la réglementation environnementale. Et donc, ça peut encore pousser si, les maîtres d'ouvrage à se dire s'il vous plaît, démolissez-moi ce bâtiment pour m'en faire un tout beau, tout bien comme il faut en béton. Ça viendra forcément. C'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver avec la RE2020 version un peu longue. Ça va arriver que je ne sais pas s'il faut punir celui qui démolit, mais en tout cas il faut encourager.
Donc ça veut dire quoi? L'aider un peu, donner une petite subvention pour aider à démolir?
À réhabiliter plutôt.
Oui, non. Mais... non, pour à ne pas démolir, je veux dire.
Oui. Ouais. Oui.
Parce que l'argent est quand même un peu le nerf de la guerre, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. Si on ne punit pas, on aide.
Moi, je prenons le cas de l'immeuble de bureau des années 80, thermiquement catastrophique,
terrible,
vide, en banlieue. On en a quand même quelques centaines de milliers de mètres carrés. Je vois, on doit être au million, on doit être à plus d'un million de mètres carrés. Ben je pense que le seul moyen, c'est d'encourager les personnes à réhabiliter ce bâtiment plutôt que de se dire je vais le démolir pour en faire un autre à côté.
Ça dépend s'il appartient à une assurance qui a déjà plein de patrimoine, et puis c'est un petit bâtiment au fin fond du 9-3 ou du 9-4, et puis bon, c'est pas grave, ça rentre dans les pertes, bon voilà.
Ouais, ça, je ne sais pas, moi, de juger de
non,
de,
non, mais
de
je
cas,
veux dire que ces bâtiments-là qui appartiennent à des grandes institutions, des assurances, ne sont parfois pas des priorités, puisque de toute façon, les loyers sont peanuts, non?
Oui, mais alors, en l'occurrence, j'ai un cas très précis d'un de nos clients que je ne citerai pas.
Non, c'est pas le client, mais le cas.
Où la collectivité a considéré que c'est forcément des gens riches, donc ils vont pouvoir... Et sans vouloir défendre mon maître d'ouvrage, en l'occurrence, cet argent-là, quand on parle de riches assurances ou autres, bah, c'est l'argent de retraite de personnes. Donc, faut peut-être faire attention à ça. En tout cas... Pour revenir au sujet, on ne peut pas laisser des millions de mètres carrés vides sans se poser la question de réhabilité. Et sans en... Pourquoi je dis qu'il faut encourager? C'est qu'évidemment, peut-être que la hauteur sous plafond du bâtiment neuf, elle aurait 20 cm de plus que dans celui-là. Peut-être que les baies vitrées seront plus élégantes dans le bâtiment neuf. Encore qu'on allait faire de très belles choses en réhab.
Le rôle de l'architecte de faire beau, voire mieux.
Mais donc, il faut encourager la réhab dans certains cas.
Alors, ça c'est un bon exemple, parce que c'est vrai, plusieurs, un million, on va dire, de mètres carrés en déshérence de bureaux, est-ce que ça ne fait pas nécessairement encore un million de réhabilité de bureaux? Ça peut faire aussi autre chose.
Bien sûr. Ah non, mais heureusement, on a compris, avec surtout la baisse de la demande du bureau, qu'on savait réhabiliter du bureau pour le transformer en logement, en hôtel, en résidence étudiante, en service, etc., etc., évidemment.
Bon, on va peut-être continuer la conversation une autre fois. Merci, Daniel.
Avec plaisir.
À bientôt, chers auditeurs, sur nos antennes, évidemment.
Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.